Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Du bon le matin.
Au-dessus de deux minutes.
Deux personnes ont été blessées lors d'une altercation entre quelques individus à la sortie d'un bar dans la nuit de samedi à dimanche. Les événements se sont déroulés peu après 3 heures au bar Le Cognac situé au 801 rue Saint-Joseph-Est. Un objet tranché.
Cognac, ça me dit bien. Rue Saint-Joseph. On doit être...
Si vous payez.
Le Cognac.
Saint-Joseph.
Ça doit être vers Saint-Joseph, mais ça doit être plus vers ce bout de site, là, tu sais. Quand on vient vers la taverne
ouest.
Chez Gérard. Ou,
côté ouest de, ouais. Mettons, de la Couronne, puis
ouais.
Les rues qui montent en
exactement.
Haut.
Exactement. Du coup, d'après moi, là, je sais pas.
C'est juste à côté du métro. Fait que t'es à l'autre bout complet de Saint-Joseph, genre quasiment dans Escompte-le-Comte.
Tu sais, là où le Ashton. Il me semble qu'il y a un Ashton dans ce coin-là.
Ouais,
là.
Mais ouais. C'est à côté de chez nous.
Oui, de ton nouveau chez toi.
C'est moins à l'ouest qu'on pensait.
Là. OK, là, ça veut dire que c'est complètement au bout à l'est de Saint-Joseph. Ah ben, je sais pas.
Il y a
quoi.
L'église Saint-Roch, là. Bon, c'est au bout de la rue, là.
OK. C'est dans le coin des bars, les nouveaux.
Les nouveaux bars, mais c'est le cognac, je le connaissais
tu
pas.
Tu connaissais pas, Stéphane.
Voyons donc. Je le connaissais pas. Ma trottinette s'est pas rendue jusque-là.
Tu relâches un peu, là.
C'est devant le Bira Basta, on me dit. OK, bon. Là, je l'ai manqué. Merci à mes informateurs de bord.
Dans l'altercation, il y a un objet tranchant qui aurait été utilisé là par les individus. Et puis, lorsque les policiers sont arrivés, il y a un homme dans la trentaine qui avait été blessé. Et lui avait déjà quitté les lieux, mais il a été localisé quelques minutes plus tard. Oh. L'autre personne, c'est un homme dans la vingtaine. Il était toujours sur place à l'arrivée des policiers. Il a été pris en charge par ces derniers. Et puis, les deux individus ont été blessés, mais on ne craindrait pas pour leur vie ce matin. Par exemple, les enquêteurs du module des crimes généraux du service de police de la Ville de Québec sollicite la population pour faire avancer l'enquête. Donc, si vous avez des informations sur l'altercation qui s'est déroulée au bar Le Cognac dans la nuit de samedi à dimanche vers 3 heures du matin dans la sortie des bars, vous pouvez composer le 911 ou bien le 418-641 Agir pour donner une information de manière confidentielle.
Parce que dans ce secteur-là, il y a le bar, oui, je t'avais parlé de ça, là, où il y a des courses de chevaux,
oui.
Bar de jeu.
Ça s'appelle... la taverne racée, ça c'est le surnom. Oui, c'est ça. Mais c'est.
Tu sais de quoi je parle? Oui. C'est un beau bar. Je suis rentré juste voir c'était quoi là.
Présenter
à un moment donné,
chevaux,
il y a des
parier.
Courses de chevaux, tu peux parier, c'est ça. C'est un bar plus de jeu.
Oui, jockey de taverne racée.
Oui, c'est ça. C'est taverne racée.
Ouais, c'est ça.
Okay. Très bon.
Mais c'est donc c'est voisin de ça. Là, okay. C'est dans ce secteur là.
On va aller dans la grande région de Montréal maintenant pour parler de la DPJ, puis une espèce de boulette qui semble avoir été commise. Une mère monoparentale qui aurait été victime de violences conjugales par le passé. Et là, la relation avec son ancien conjoint est devenue chaotique. La naissance de leur fils est survenue quelques instants après, quelques semaines, quelques mois après. Et la bataille juridique pour savoir qui a la garde principale de l'enfant. Bon, et là se déroule la suite de l'histoire. Il y a des histoires de violences conjugales à travers tout ça. Et là, la Cour supérieure ordonne que l'identité et les futures adresses de cette femme-là soient cachées. Mais la DPJ a envoyé un document, par la suite éventuellement, au père, qui contenait l'adresse de la dame en question. Alors, évidemment, elle a soulevé l'incongruité. La protection de la jeunesse a refusé la demande d'entrevue pour des raisons de confidentialité, mais on dit qu'elle a été victime de violences conjugales par le passé et que ça aurait pu effectivement être fatal là, de dévoiler l'adresse comme celle-là. C'est peut-être le... Et on peut pas présumer que, mais ce que disent les divers intervenants dans l'article que je vous lis, là, ça aurait pu être une marche vers un autre féminicide.
La cour arrière du Festibiaire ne fera plus partie du paysage du port de Québec cet été. Le port a décidé de ne pas renouveler le bail du groupe Je Bois Local, administrateur du populaire établissement. La volonté du port de Québec était d'administrer son propre site et de transformer la vocation de l'emplacement pour le rendre plus familial et moins festif. Le groupe Je Bois Local, organisateur des festivières de Festibiaire de Québec et Lévis, est également propriétaire des cours arrière du Festibiaire de Québec et Lévis, n'a cependant pas l'intention d'abandonner le projet, pardon. Les propriétaires ont invité la population à leur écrire des suggestions pour des nouveaux des nouveaux emplacements, des nouveaux projets.
Il y a dans ce secteur-là
quelques dizaines de personnes.
Quelques dizaines de personnes, des antitoutes. L'Agora est fermée à cause de ce même monde-là.
Est-ce que Red Bull, par exemple? Est-ce que Red Bull a quitté cause de ce... Mais Red Bull, je mets des bémols parce que Red Bull, il essaye de développer des marchés internationaux, mais ça n'a pas aidé. Ça a chiolé en bâtisse.
Ben oui, puis Red Bull avait une entente qu'à Québec, il allait revenir de toute façon. La preuve, c'est que la ville de Québec avait payé pour mettre dans des trous d'hommes, là, souterrains, dans la côte de la montagne, des compresseurs. Puis on avait installé ça de façon permanente pour dire quand Red Bull vont venir, les compresseurs seront là, ça va être beaucoup plus facile. Il y a...
C'est dans cette lignée-là, cette nouvelle-là.
Et surtout dans l'immeuble qui s'appelle les terrasses du Vieux-Port. L'immeuble, là, souvenez-vous, il y avait, malgré que ça, j'avais compris qu'il y a des gens qui en avaient perdu beaucoup. Cet immeuble-là, à côté duquel on a construit un stationnement à étage.
Quatre étages, puis là, ils ont perdu leur vue.
Ils ont perdu, oui, mais c'est ceux d'en bas qui ont perdu la vue, là, tu sais. C'est sûr qu'il y avait du monde à pied, ils perdaient la vue, là, tu sais.
En même temps, il n'y avait pas de parking pantoute dans cette place-là, puis il y avait le musée juste à côté.
Ouais. Les gars, tu sais, c'est toi, puis ils perdaient la vue.
Ah, eux autres, ils perdaient la vue. Si c'est toi, il n'y avait deux autres, il n'y avait plus rien. Non, mais c'est un petit groupe. Qui empêche toute activité dans le Vieux-Port.
Dans le cas de l'Agora, par exemple, bonne nouvelle, la semaine passée, on annonçait quand même qu'on va remettre la programmation de cet été sera remise l'été prochain également. Là.
Ça a été long, l'Agora, ça a été très long. Plusieurs années.
Ah, oui. C'est quelques spectacles, là. On ne pète pas le 10. Là,
mais c'est dans la même lignée, c'est la même lignée.
J'ai parlé, moi, avec les gens qui étaient les gestionnaires de l'arrière-cour du festivière, puis c'est que des plaintes, puis pourtant, à 11h, c'était fermé,
C'est tout l'été, ça. Donc, festibière, c'est pas... Le mot festival est...
Non, mais l'arrière-cour du festibière, là, ouais, c'est un petit bar extérieur qui se trouve, puis c'est ouvert du début, là.
Dès qu'il fait beau, c'est plein.
OK. Je pensais que c'était un festival.
C'est tout le temps plein.
C'est un sacré beau succès, là. Okay. Ça faisait la file tout le temps.
Oui. Et le monde, il allait là les mardis, lundis.
Ben, honnêtement, je me demandais pourquoi j'entendais aussi souvent parler du festivière tout au long d'un été. Là, je viens de comprendre que c'est pas un festival, long festival.
Mais pour les gens qui ne savent pas, il y avait celui-là. Puis il y en a un à Lévis, direct en face. Il est voisin du Juvena à Saint-Romuald. C'est ce qui est le Juvena sur le long du fleuve. Là. Ben, quand tu rentres dans la cour pour aller au Juvena, en face du petit restaurant Le Grain de Folie, là, dans le parc là à gauche, c'était là que c'est là qu'ils sont installés. Ça, semble-t-il que ça va continuer. Fait que, mais en tout cas, c'est vraiment des plaintes de quelques dizaines de citoyens désagréables qui vivent en ville, mais qui aimeraient qu'il n'y ait pas de ville.
Ça va être compliqué un peu.
Oui, assez compliqué, merci.
En terminant sur l'autoroute Laurentienne actuellement, il y a un accident à la hauteur ou à peu près de l'autoroute de la capitale en direction sud. Et le problème, c'est que ça refoule au-delà de Jean Talon pour l'instant. Puis il y a 10 minutes, ça refoulait pratiquement pas. Fait que tu auras compris que ça s'est chargé rapidement.
C'est peut-être pour ça que Nicolo n'est pas arrivé. Ah, il est là! J'avais pas vu! Colin!
Ah, tu l'avais-tu vraiment pas vu, là?
Ça va!
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Yes. Pour compléter les nouvelles, je vais vous lire. C'est un message que j'ai vu sur Facebook hier. S'il y a des gens qui ont des détails, j'aimerais peut-être ça le savoir un petit peu.
Des détails.
C'est un message qui a été publié par le Collège Sainte-Anne de l'Apocatière. De ce que je connais de ça, c'est une école privée niveau secondaire à l'Apocatière. Et ils ont publié le message hier en fin de journée. Donc, vous voyez que c'est des événements qui sont très récents. C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons, en raison du décès de l'un de nos membres du personnel, que les cours seront suspendus ce lundi 28 novembre 2022. Vous avez besoin de parler à un professionnel. Il y a une ligne 811. Il y a des professionnels également qui sont mis à disposition, des membres du personnel et également des étudiants qui fréquentent le Collège Sainte-Anne de l'Apocatière. On n'en sait pas plus. Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ce collège privé-là. Donc, c'est un membre du personnel qui est décédé subitement, de ce que je vois dans les messages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on suspend les cours aujourd'hui. C'est très, très triste, la nouvelle, donc, qui frappe ce secteur-là. Oui.
Le Rougeur est champion au football universitaire canadien pour la 11e fois de son histoire. Ce soir, Monday Night Football, Pittsburgh contre les Colts à Indianapolis. Le Canadien joue son prochain match demain contre les Sharks de San Jose au Centre Bell. Les Remparts, deux autres victoires, sont premiers au classement général de la LHJMQ. Et le Canada est éliminé à la Coupe du monde de soccer suite à un revers de 4-1 contre la Croatie.
Tu peux pas nous éliminer, ça vient de commencer.
Il reste un match là, contre le Maroc jeudi, mais ça marchera pas.
Non?
Non.
Ils vont se passer de nous autres?
Bon, oui, ils vont se passer de nous pour le détail.
Ça finit quand, la Coupe du monde?
Le 20, je pense, 20 décembre.
Le 20 décembre?
Ça brûle pour point, toi, là.
Caroline, c'est long encore.
Oui, puis mais nous il reste, faut finir la ronde préliminaire là, jusqu'en fin de semaine. Puis après ça, ben, ça va être les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, puis la finale.
Bon...
Il en garde 16 seulement, puis il y en a 16 qui
nous ont pas pris.
Le Canada. Qui ah vont, ben, on ne sait pas quand même, on va se passer de vous.
Puis Maradona, lui, il joue-tu encore?
Non.
Non, il ne joue plus?
Il regarde ça d'en haut.
OK, oui. Ah, il est mort.
Ah, il est mort.
La main de Dieu.
OK, c'est
bon. Ça va bien tes affaires. Hey. Spectacle sur le bateau, la madame est mort. Oui. Tes références de soccer, il est mort.
Maradona, il est mort, puis il n'est pas mort vieux. Là. Il est mort fin cinquantaine, ouais.
Début 60.
Magané,
pas
pire.
Il était d'une ouais. Belle rondeur, comme on dit.
Oui, il y a des bouts qui étaient à 80-90. Oh, son corps,
oui. Il se couchait à 45, à 45 ans, puis il se levait à 92. Oui, Stéphane.
OK. Je vais vous faire la météo.
Ah oui?
Fait que...
Il manque la musique. Ah, voilà.
Oui, c'est tellement clair.
C'est ça.
Bon, mais c'est très humide à l'extérieur. La pluie va cesser dans les prochaines heures. On devrait être clair pour l'heure du midi. Ouais. Fait que... Oui, oui. Le soleil va se pointer le bout du nez. Là.
Il en fait pas des grosses, hein, le soleil?
Non, non, il en fait pas des grosses. Il fait-tu noir, le bonheur?
C'est ça, il travaille moins que Stéphane.
Présentement, oui. Lui, il est pas loin, c'est 4 heures. Puis un peu avant, je pense.
À quelle heure qu'il se couche? J'ai dit ça ici.
4 heures, rien que juste.
Avant toi. Il se couche avant moi, c'est sûr et certain. Hey, il se couche à 16 heures pile aujourd'hui. Puis il se lève à 7h05.
Il vient. Regarde.
C'est une belle job, ça. Je pourrais faire
en ça. En se levant, il s'attire, puis il fait pas grand-chose. Ouais, regarde ça, là.
L'été, ses journées sont pas mal plus longues que les tiennes, par exemple.
Oui, ça, c'est ça. Mais je n'ai des longues, je te dis.
Oui.
Ce qui est le fun, c'est qu'on manque pas le lever du soleil, là.
Jamais.
C'est ça.
99%, c'est l'humidité. Le point de rosée est à 2 degrés. La pression barométrique est à
998,6.
Ah, okay. Puis, 10
UV, 0,
ça veut dire? 0. C'est 0. Alors, mais c'est, donc, on aura du soleil en après-midi aujourd'hui. Le soleil arrive parce que on a un anticyclone qui s'installe et une vague de froid, évidemment. Demain matin, vous allez vous lever autour de moins 9 degrés. Ce sera très frais. Moins 4 en journée demain. Et pour mercredi, ben là, on annonce vraiment une remontée des températures, ce qui pourrait arriver également avec beaucoup de pluie. Ça, c'est certain. Alors, voilà pour les prévisions météo des 48 prochaines heures.
As-tu 2 minutes? Présenté par les Cliniques Marois. C'est parce qu'en urologie et santé sexuelle, 2 minutes, c'est trop court. Clinique Marois, 581-801-4594.
Ben, c'est ça.
Très bon, muffin aux bleuets, Stéphane. Merci.
C'est bon, les muffins. Nicolo, je t'ai emmené des bleuets à toi aussi.
Merci.
Fait que,
ça reste
direct
bleuets,
des
là.
Veines.
Direct il n'en reste plus aux bleuets, là?
Non. Ben oui, il y avait comme une explosion de fruits.
Oui, il y a une explosion. Ah, t'as pris celle-là, toi?
J'ai pris ça, moi.
Puis, Catherine, t'as pris?
J'ai pris carotte.
Oui, carotte.
Moi, j'adore carotte.
Fait qu'il y a juste ça plus gras, un petit peu.
Bon.
Vas-y, mon Diego, ça
ne retenait pas à moi.
C'est de chocolat.
T'as-tu son raisin? Moi, j'aime bien ça, son raisin.
Son et raisin, hey, peut-être.
Pierre, puis moi, on est des fans de son et
raisin. On a son raisin.
Faut se dire ça.
Ah, on a notre raisin, oui, effectivement.
Mais c'est déjà arrivé, ça, à un moment donné. Je suis allée au Tim Hortons. J'ai commandé des muffins. Puis j'ai dit, ah, ben là, quelle sorte vous avez? Elle dit, je les ai toutes. J'ai fait, ah, excellent. Fait que là, je commence à commander.
T'as pris une dose?
Pas en toutes. Non, j'ai... Oh, là, Nico, je m'entends double. Ben, OK, c'est beau. Fait que finalement, tu sais, elle dit, je les ai toutes. Je fais, excellent. Fait que je commence à commander. Elle dit, oh non, finalement, j'ai pas son et raisin. Il y a quelqu'un qui est parti avec toute ma batch.
OK.
Il y a quelqu'un qui est parti avec toute la batch de son raisin. Hey, je comprends pas ça.
Moi, ça m'arrive d'arriver à j'en prends 6 son et raisin. Là. La boîte au complet son et
raisin.
C'est
ça.
C'est peut-être moi qui étais devant toi.
Oui.
C'est peut-être ça le problème.
Je suis certaine que c'est ça.
Bon, mais je vous ai parlé de ce qui se passe du côté du collège Saint-Anne de la Pocatière. Ouais. Alors, c'est un enseignant qui semblait très, très apprécié.
Mm-hmm. Coach de sport aussi.
Coach de sport également, mm-hmm. qui a succombé à un malaise. Oh. Donc, au cours des derniers jours...
Tu as de l'info qui est rentrée?
Comment?
T'as de l'info supplémentaire qui
rentre? Ben, c'est quelqu'un que vous connaissez, là, qui, donc, avait des liens. Ben, je connaissais du monde aussi qui était en lien avec l'école là-bas, mais c'est Alex Desrosiers, notre collègue, qui m'a écrit.
Ah, OK. Oui.
Pour nous dire que c'est un prof, donc, dans la cinquantaine, qui est décédé d'un malaise. Toutes nos condoléances et l'école est fermée aujourd'hui. C'était pas attendu, fait que ça a été, c'est une nouvelle des fois qui peut ébranler les jeunes élèves et tout ça.
Oui, je suis en ce moment en communication avec le directeur général de l'école.
Okay.
Je sais pas si je peux donner toute l'information, là. Donc, moi, je l'ai devant les yeux. Il a pas parlé encore à la femme de la personne décédée. Mais c'est ça s'est passé subitement, là.
En fin de semaine,
je confirme. C'est ça. Mais je donne pas plus d'informations. On va savoir plus tard.
Ça arrive comme ça. C'est triste quand ça frappe un milieu aussi important que le milieu de l'éducation. Bon, fait que tout le monde est là. C'est lundi matin, il me semble qu'il fait noir encore terrible, même si le soleil doit être levé depuis 7h05. Il est peut-être en retard, ça peut arriver.
Il s'étire, pense à la douche.
Il s'étire, c'est ça. T'es-tu en retard?
Bon, tu peux.
Tu sais qu'avec moi, c'est pas...
Oh oui, c'est ça. C'est un des avantages non imposables.
De quoi?
De pouvoir arriver flexible.
Je pensais vous imposer quelque chose. Hey, hier, j'ai écouté un documentaire. Honnêtement, c'est la deuxième fois que je le regardais parce que je voulais me rafraîchir la mémoire. Parce que j'avais écouté ça il y a un certain temps. Et mais je trouvais ça fort intéressant. Parce que c'est une série qu'il y a à la télé, au Canal Historia. C'est une série qui... s'intitule La bouffe qui a forgé l'Amérique. Tu sais, puis on y va et c'est phénoménal de voir comme l'Amérique s'est forgée entre 1900 puis 1940 ou à peu près. Tu sais, je dis 40 là, puis je dois aller un petit peu plus loin que ça, là, peut-être jusqu'à 1950, tu sais, parce qu'il y a eu la sortie de la guerre, puis la période de la guerre aussi qui a été très très difficile. Mais c'est incroyable comment
les autos sont arrivées.
Ouais,
les transports se sont modernisés pas mal.
Exact. Puis toute cette mécanisation là, autant de l'industrialisation également, c'était majeur.
Ça change tout. Tout, là, c'est sûr. Là, c'est une série ou c'est une série d'épisodes? C'est un épisode, c'est un documentaire?
Ben, c'est toujours un épisode d'une heure sur un produit X et des concurrents.
Donc, une nouvelle émission à chaque semaine, mettons.
Ah ouais, c'est ça. Parfait. Moi, j'enregistre la série au grand complet. Okay. Puis, c'est toujours intéressant. C'est sûr que ça va se ressembler. Récemment, je vous ai raconté l'histoire de les Ben Krispy Kreme.
Ouais.
Tu sais, qui ont, eux, les pâtissiers de Krispy Kreme, qui ont inventé une machine qui faisait les beignes de façon mécanique. Tu sais, ça, c'était la révolution. Mais dans l'histoire que j'ai aujourd'hui pour vous autres, c'est un peu comme ça aussi, où l'industrialisation a fait que des entreprises sont devenues, tu sais, encore aujourd'hui, je vais vous parler de Kraft. Kraft, qui est une... c'est une des cinq entreprises, des plus grosses entreprises au monde actuellement, parce qu'ils ont fonctionné par... acquisition. Mais avant de vous parler de Kraft et de son fondateur, James Kraft, qui avait l'air de tout un génie, hein, au début des années 1900, là, 1920, est un gars qui semble avoir énormément révolutionné tout ce qui se faisait en Amérique par ses visions incroyables. Mais avant lui, l'histoire que je veux vous raconter, c'est un immigrant. Un immigrant italien qui arrive aux États-Unis, qui est un chef. Il s'appelle... le pire, là, c'est qu'il était... Ça, je savais pas ça. Quand t'étais accepté aux États-Unis comme immigrant, ils te rencontraient, puis si, mettons, ils voulaient tellement pas... On était au 1910, à peu près, là. T'arrivais, puis si, mettons, t'avais un nom qui fitait pas trop, là, on pouvait modifier ton nom. Alors, lui, ce qui s'appelait... J'ai de la misère à vous le dire, c'est un nom italien qui ressemblait à Hector, mais c'était genre Hectoré ou il y avait un autre syllabe là, que je me souviens pas, mais on lui a dit finalement tu t'appelleras pas de même, tu vas t'appeler Hector.
T'as pas gros Hector.
Hein? T'as pas gros Hector, mais c'était Hector, un nom que tu connais très très bien. Oh. C'était le chef Hector Boyardi.
Boyardi,
qui est un Italien qui, lui, arrive donc aux États-Unis, il arrive à Cleveland en Ohio, et à ce moment-là...
Hein? Par bateau, probablement.
Puis il devient il est fier d'être américain. Il reste italien, mais devient un fier américain. Il devient un chef également de cuisine française parce que en 1920, autour d'eux, il y a les restaurants américains là, qu'on va connaître et qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais sinon, il y a uniquement des restaurants français. Il y a deux types de cuisine, essentiellement, puis c'est la restauration française ou bien, évidemment, la restauration traditionnelle américaine. Donc, Hector Boyardy, lui, arrive là, puis il y a pas tant de fun que ça à cuisiner des recettes françaises. Alors, il décide de faire à sa tête. Il est avec son frère dans ça. Il fait à sa
un
tête.
Français, t'es-tu?
Pas un français, c'est un italien.
Mais
il est têtu.
T'es-tu?
Et ce qu'il comprend pas, lui, il dit, c'est drôle, hein, parce que au cœur de la cuisine italienne, qui est connue fuck all dans ce temps-là, aux États-Unis, là, premièrement, on mange pas épicé, du tout. Et les tomates sont très peu utilisées. Et même, pas pantoute, il y a très peu de tomates au début du 19e siècle.
Il n'avait pas appris à se promener flambant nu pour que les tomates...
Pour les faire rougir.
Il n'y avait pas ça.
Les Italiens, eux, cuisinaient avec des tomates beaucoup. Puis c'est assez incroyable parce que c'était au cœur de la cuisine italienne. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de tomates en Italie. Fallait qu'ils les importent des États-Unis. Ça veut dire qu'ils ramassaient les tomates ailleurs pour les avoir chez eux pour finalement les cuisiner. Ils les cuisinaient pourquoi? Parce qu'ils étaient plus fraîches quand ils arrivaient. T'sais, on comprend avec tout ça. Alors lui, quand il réalise qu'au cœur d'où il y a les tomates fraîches, il y a donc les ingrédients qu'il faut, et il commence, et il va ouvrir un restaurant qui va s'appeler Garden of Italy. Il va ouvrir ça à Cleveland, en Ohio. Et ça va partir difficilement. Parce que, premièrement, il n'y a pas personne qui veut lui prêter ne soit qu'un dollar. Parce qu'il cuisine italien. Il dit, non, tu seras plus en affaires la semaine prochaine. On t'avance pas. On livre, mettons, des tomates. Tu les payes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de crédit possible avec un restaurant qui, aux yeux des gens, apparaissent qui va être un flop monumental. Alors, le restaurant, finalement, va connaître quand même beaucoup de succès. À un point tel où les notables de la région de Cleveland vont commencer à aller en cuisine pour parler à Hector Boyardy, pour lui demander, dire, il y a un plat principalement qui se démarque, c'est le spaghetti meatball. Vous vous rendez-vous compte que il se mange pratiquement pas de pâtes en 1920? Non. C'est très, très... Le spaghetti est à peu près inexistant dans le menu américain. Puis, donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pâtes. D'ailleurs, les pâtes, là, entre 1975 et 1990, tu sais, on est quand même assez dans une époque récente, là, les pâtes alimentaires vont plus que doubler dans leur consommation en Amérique seulement.
Pasta.
Tellement, parce que là, il va y avoir ce virage-là.
Mais c'est fou, parce que, tu sais, c'est pas cher à faire non plus, là.
C'est pas très compliqué, non.
C'est ça.
Non, mais ça existait pratiquement pas.
Mais c'est pour ça que c'est devenu populaire. C'est pas compliqué faire des pâtes.
C'est ça. Mais tu vas voir où est-ce que ça va aller. Justement, c'est pas cher. C'est très simple.
Pas cher, c'est
important. Fait que, et là, il y a des notables qui vont commencer à aller en cuisine puis demander à Boyardy, est-ce que tu pourrais donner ta recette à ma femme? Je veux qu'elle me fasse ça à la maison. Fait que, évidemment, un Italien têtu comme Nicola Cortina, mettons, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de recette.
Un exemple comme ça.
Il n'y aura rien qui va sortir de là. Mais cette grande demande-là, donc, d'avoir la recette, va amener les frères Boyardy à inventer ce qui va être la première boîte repas à amener à la maison. La première de toute l'histoire. C'est une boîte Boyardy, donc, ou à la main. Et ça, c'est drôle. Il prenait de la corde de balle de foin, OK? Évidemment, des plats de pâte spaghetti. À la main, il faisait des petits tas de quatre. Il attachait ça avec une corde, donc il faisait un nœud. Il mettait ça dans une boîte de carton avec un genre de pot de verre avec la sauce et une enveloppe scellée avec le parmesan dans la même boîte, et ils vont vendre ça directement au restaurant. Ça va tellement fonctionner, ce principe-là, et c'est pas le premier format de take-out, parce qu'avant ça, en Californie, les take-out chinois existaient déjà. Là, ouais. Je dis chinois,
la petite boîte
de carton, là, ça existait déjà en Californie. C'était très peu populaire, mais ça existait. Alors, eux vont être les premiers à mettre tous les ingrédients, donc les trois ingrédients, dans une boîte et commencer à vendre ça pour que les gens le fassent à la maison.
Parce que là, c'est à réchauffer, là.
Mmh. Exactement. Ouais, mais réchauffer, bien recuisiner, ouais, les autres après ouais. ça. Mais avec les instructions, c'est très simple et on s'en va vers un système de facilité à cette époque-là. Ça va tellement marcher qu'ils vont être obligés de fermer la salle à manger. Ils vont en arriver à fermer la salle à manger
pour pouvoir
uniquement produire les boîtes qui ne finissent de produire et qui vont donc être très 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 populaires à ce moment-là. Évidemment que à partir là arriva aussi la Grande Dépression en 1924 et on c'est drôle dans l'histoire, on a de la misère à voir si ça les a aidés ou si ça les a un peu ralentis. Chose est sûre, c'est que ça a continué, mais c'était la Grande Dépression puis le monde n'avait pas d'argent. Oh. Et c'était quand même économique d'acheter une boîte comme celle-là mm-hmm. et de la préparer à la maison pour une qualité de repas qui, à l'époque, était quand même... Tu sais, parce qu'à l'époque, le restaurant était très, très élevé au niveau de la qualité, puis à la maison, c'était moindre. On était moins outillés et tout ça. Fait que la Grande Dépression va arriver. Eux, ils vont être dans ça. Ils vont continuer leur boîte repas. Ils vont même là, commencer, Chef Boyardy va commencer à faire du canage pour canner différentes autres recettes de pâtes dans des cannes. Les gens de ravioli.
Les manger du ravioli.
Du ravioli, Chef Boyardy. Hein? Et ils vont commencer ça. Et là, quand la guerre va commencer... la Deuxième Guerre mondiale commence en 1939. OK, mais là, évidemment qu'il arrive un... le rationnement aux États-Unis, moi, je me souvenais pas de ça. Vous souvenez-vous de ça, que les gens étaient rationnés partout à travers les États-Unis?
Pendant
la guerre, ça marchait avec des timbres. Tu pouvais pas acheter aucun aliment si tu n'avais pas un timbre de cet aliment-là. Okay. Et c'était tout le monde égal, peu importe ta classe sociale. Fait que ça fonctionnait avec des timbres. Et là, les timbres étant tellement rares, parce que les gens vraiment mouraient de faim. Là, ouais. C'était terrible. Et l'autre affaire, c'est que tout l'étain aux États-Unis avait été réquisitionné par l'armée. Fait que c'est à ce moment-là que les frères Boyardy vont rencontrer le gouvernement américain. Ils ont dit « Hey, on va embarquer plutôt que de mourir... » que notre entreprise meurt ne pouvant plus canner ses produits puis avancer. Mais vous autres, vous avez du monde au front. On va les nourrir. Fait qu'ils signent une entente financière avec le gouvernement américain. D'ailleurs, ils vont faire de l'argent avec ça. Parce que ça va devenir très, très populaire. Et ils vont donner le goût aux soldats de manger des pâtes. Et ça, là, c'était une porte d'entrée qui était incroyable pour le chef Boyardy. Et fait que à un point tel, là, il n'y a plus d'étain. Mais là, vu qu'ils vont signer avec l'armée, là, oups, eux vont recommencer parmi être les premiers en privé.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
À être approvisionné. Ensuite de ça, tu as demandé la tomate où ils sont à Cleveland, en Ohio. Ils sont un peu trop au nord. C'est difficile, les tomates. Ils manquent de matières premières. Ils vont carrément fermer l'entreprise et la déménager en Pennsylvanie, à Milton, en Pennsylvanie, parce que ils vont là-bas. Il y a personne en Pennsylvanie qui cultive des tomates. C'est assez incroyable, hein? Et à Milton, ils vont voir tous les fermiers. Je pense que c'était 9 fermiers qui géraient on est dans le milieu des années 1900, et qui cultivent toutes des patates. Ils font juste que des patates. Et ils vont convaincre les 9 cultivateurs à arrêter les patates pour commencer les tomates, okay. qu'ils vont acheter au complet. Et c'est là, ce sera le grand changement de Boyardy. Fait que Boyardy. Ils vont se lancer dans, ils vont continuer. Donc après ça, la guerre arrête évidemment, puis là, ça reprend.
Mais c'est impressionnant qu'il y avait eu assez d'argent pour déménager une entreprise.
Là. Oui, mais à cette époque-là, ça se faisait quand même avec des budgets qui sont moindres qu'aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose qui va beaucoup les avoir aidés. En même temps que ça, quand je vous dis qu'il y a une rivalité, en même temps que ça, c'est James Craft. Qui, lui, a déjà une entreprise qui est cotée en bourse, puis qui va très, très bien, dont les produits, quand même, fonctionnent assez bien, mais qui veut devenir la plus grande entreprise de fromage aux États-Unis. Fait qu'aussitôt qu'il va... Tu sais, comme par exemple, il y a un de ses directeurs, qui un jour va arriver avec du fromage Philadelphia, le fromage à la crème. Il va trouver ça à New York, dans un petit magasin.
Ils ont appelé ça Philadelphia. Je
ne sais pas le lien. C'est dans un épisode qui s'en vient, mais je ne sais pas le lien.
Tom Hanks pourrait nous le dire.
Pas-tu Philly cheesecake ou New York cheesecake? Donc
c'est Philly.
Hein?
Philly.
Ouais, okay.
Fait que là, il va emmener le fromage à la crème et il va goûter à ça, il va capoter réel. Puis il va dire, OK, il envoie quelqu'un, puis il achète la compagnie.
Quand il a capoté.
Aussitôt qu'il y a quelque chose, il achetait, lui. Donc, il achetait, mais en même temps, il demandait à son monde de développer des produits. Puis quand, en même temps, tu sais, l'histoire sont parallèles, en même temps que la Grande Dépression arrive, un des produits qui fait que la compagnie Kraft, même s'il était spécialisé dans le fromage, le produit qui est le plus rentable qu'ils vendent, c'est quoi?
Butter peanut.
C'est la mayonnaise.
Ah, hein? Oui.
C'est de la mayonnaise, oui, à l'époque. Parce que il n'y a pas de sauce qui existe vraiment.
Mais c'est vrai qu'avant, c'était la sauce à salade Kraft, là.
Non, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. C'est Hellmann's qui sont les premiers, oui, à inventer la mayonnaise. Et Kraft va copier la recette de mayonnaise. Mais sauf que dans l'année de la Grande Dépression, début des années 30, milieu des années 30, les œufs sont hors de prix. Fait que la mayonnaise devient un produit de luxe et les gens ont de la difficulté à en acheter. Et lui, il dit, OK, là, il faut arrêter de produire de la mayonnaise.
La
c'est
poule
trop
aux
cher.
Œufs d'or.
Mm-hmm. Fait que, hein?
La poule était aux œufs d'or.
Oui, absolument. C'est là que ça vient, les œufs d'or. Et là, James Kraft va dire à son équipe de chefs et de techniciens, il va leur dire, vous allez m'inventer une mayonnaise sans œufs. Là, ils traitent tout de fou, certains s'en vont. Fait qu'il dit, mais non, c'est impossible, ça existe pas. C'est impossible. Fait que, mais il y en a quand même des têtus, ils se font dire, tu vas faire ça, tu vas faire ça.
C'est bon, c'est
et ils vont réussir à créer la sauce à mayonnaise, la sauce à salade Kraft. Écoute, le gars qui va inventer ça.
La Miracle Whip.
La Miracle Whip. D'ailleurs, le nom provient de l'invention de l'employé de James Kraft. Parce que lui, il est pas capable de faire lever la mayonnaise. Tu sais, c'est l'émulsion de l'œuf qui fait que la mayonnaise est... Puis d'ailleurs, la mayonnaise avait un problème à cette époque-là, c'est qu'elle était bonne 3 jours. Après ça, elle était plus bonne. Tu comprends? On avait de la difficulté à réfrigérer les produits.
Ouais, la conservation, c'était pas facile, là.
Alors lui, il va s'inspirer d'une machine qu'il va voir quelque part. Et il va créer cet appareil-là qui est mécanique. Là, ça ressemble d'un appareil en fer. C'est en fer. Et ça va brasser à 4 fois plus vite que la vitesse des autres machines que ça mousse, si on
donc
veut, la mayonnaise.
Whip. Donc, ça whip.
Ouais, il va faire de la whip tellement la machine elle va virer. Puis elle va tellement vite qu'il pourrait l'arrêter. Fait que la machine, elle va marcher en continu. Elle va faire de la mayonnaise en continu 24 heures sur 24.
C'est une erreur qui a amené à ça.
Oui. Puis là, mais il est obligé de mettre un peu d'œuf dedans, mais très peu. Fait que ce qui va faire que quand ils vont commencer à produire les premiers pots de mayonnaise Kraft, il va avoir un peu d'œuf et ça va coûter 18 cents le pot, ce qui est un tiers du prix de la Hellmann's ou de la mayonnaise qu'il y avait avant. Puis en plus, elle se garde 2 puis 3 fois plus longtemps.
Un miracle.
Elle se conserve, oui. Et c'est pour ça que ça s'appellera Miracle Whip.
Et voilà.
Parce que c'est le miracle de la machine qui va faire que cette sauce à salade-là...
Ça semble aussi que c'était pas le goût.
Ouais, c'est
pas lié au goût.
Certainement pas le goût.
On se rapproche de la sandwich aux tomates toastées avec ça, là.
Ben oui, il se ramène, puis la mayonnaise...
Ça fait le travail, ça, une sandwich au fromage toasté.
Ben oui, ça fait très, très bien. Oui, aux tomates, tu veux dire.
Oui.
Avec du fromage?
Les deux.
Sandwich aux tomates toastées.
Pendant les deux, on a mêlé 2 affaires tantôt.
Oh!
Quoi?
C'est Philly cheese steak. Puis New York cheesecake.
Cake. C'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Ah. Parce que le fromage à crème, c'est né vraiment à Philadelphie, là.
OK. Fait que, donc, je reviens à mes 2 histoires. Pis,
on était à Miracle Whip.
Ouais. James Kraft va, après Miracle Whip, puis le succès incroyable, ils vont en vendre 1 million, je pense, de pots, ce qui est astronomique à l'époque. Dès la première année, ça va être un succès incroyable. Ça,
là, on peut
millions.
Pas mettre ça sur nos toasts le matin, ça prend d'autres choses, mettre ses toasts le matin.
Ça prend d'autres choses, oui, mais là, c'est pas là. Il va
non, il veut compétitionner Boyardi, fait que là, on va parler de mac and cheese.
Exactement, il s'en va, exactement. Et sais-tu ce qui est impressionnant, puis ça va peut-être vous lever le cœur, c'est une femme, une des premières femmes à être très haut placé dans un comité de direction d'une entreprise comme Kraft,
ouais,
qui va avoir l'idée, elle, de dire, parce que James Kraft va dire, OK, ça me prend quelque chose de cheap, simple, pis cheap. Fait que, et là, elle va dire, ben, du macaroni au fromage.
Bon macaroni.
Fait que, il va dire, OK, j'aime l'idée derrière ça. Et elle a déjà une idée en tête, c'est que 20 ans auparavant, l'entreprise avait déshydraté du fromage, okay, qui avait emmené du fromage en poudre, la poudre jaune qu'on connaît aujourd'hui. Il avait fait ça parce qu'il pensait que ça allait devenir quelque chose de très facile à vendre parce que ça n'a pas de date de péremption, oui, parce que ça peut être envoyé justement
à
l'armée.
Fait que c'est pas une erreur, eux autres, la poudre tu nous amènes la poudre de Kraft Dinner, j'imagine.
Ouais,
là.
Exact.
Ah, c'est
mais,
bon.
Mais quand elle utilise la poudre de fromage déshydraté que Kraft a créée, elle a 20 ans d'existence. La poudre d'or dans des bacs, dans un entrepôt. et elle prend cette poudre-là, puis elle met ça avec le son mac and cheese, avec un peu de lait ou de beurre, ou simplement un peu d'eau. Et elle va donner une recette qui va devenir le mac and cheese. Écoute, c'est 1 million de boîtes vendues par jour. Par jour. C'est assez incroyable.
Dont 800 000 au Canada, parce qu'on est fort là-dessus.
On est fort là-dessus. Oui.
Mais là, attends une seconde. Là, ils vendent ça avec la poudre vieille de 20 ans.
Avec la poudre de 20 ans, oui.
OK. Mais moi, j'ai...
Mais ça va aller rapidement, là.
C'est ça, oui. Ben, il faudrait que ça parte rapidement, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir des recours contre eux autres, là. Mais ça coûtait 19 cents à l'époque.
La boîte?
En 1937, c'était 19 cents.
C'était vraiment pas cher,
c'est
hein?
C'est très, très pas cher.
Mais la philosophie derrière ça, puis ils ont basé d'autres produits là-dessus, Kraft, entre autres, la philosophie était de ce qui coûte cher. Tu sais, parce que ils venaient de créer la mayonnaise sur cette base-là en disant, les œufs sont trop chers, on va créer d'autres choses pour éliminer les affaires chères.
Ouais. Ça, eux autres, c'est le beurre puis le lait qui coûtait cher.
Exactement. Et là, vu que le beurre et le lait coûtent cher, ils ont dit, hey, on va le vendre ça au monde, ils le mettront chez eux. Puis s'ils en veulent pas du lait, ils mettront de l'eau.
Mais ça, tu gères pas de périssable pantoute, là.
Exactement.
Ah, c'est bon.
Fait que c'est comme ça qu'ils vont amener, donc, leur boîte. Et là, c'est en même temps que ça, c'est la première, c'est la création du premier supermarché aux États-Unis. Le premier supermarché qui s'appelle A&P Supermarket. C'est même eux qui vont inventer le nom de supermarket.
American and Ketchose. Oui, ça existe encore, ça. American and Ketchose?
Oui, American. Le nom est long de même.
A&P Fresh?
Non, c'est American and Pacific. P, c'est pour Pacifique.
C'est peut-être Atlantique.
C'est Atlantique et Pacifique, ouais. Marché
Atlantique
d'alimentation.
Atlantique et Pacifique, ça, tu couvres un grand bout avec ça. Là.
Exact.
Et eux, Great Atlantic and Pacific Tea Company.
Oui, Tea Company, c'est en plein ça. Et à ce moment-là, ils ont, à travers les États-Unis, et c'est pour ça que c'est la première chaîne de l'histoire, ils vont avoir 16 000 magasins à travers les États-Unis.
Ils ont parti ça fort.
Oui, et là...
C'est fini, par exemple, excuse-moi, ouais. Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus.
2015.
OK, je ne savais pas.
Quand même, assez récent.
Et Boyardie vont être les premiers à aller leur proposer leur écanage et boîte de spaghettis, là, tout près d'avance. Ils vont rencontrer les dirigeants. Les dirigeants vont être très intéressés, impressionnés de la qualité de la bouffe de Boyardie, mais ils vont dire, non, Boyardie, parce Boyardie. Que le nom de Hector Boyardie, ça s'écrit B-O-I-A...
R-D-I.
A-R-D-I. Puis il va dire, non. Puis là, puis encore une fois, les Italiens sont... Je savais pas ça, là. Les Italiens... 1920, 1930, sont vraiment pas aimés aux États-Unis. Il y a comme... c'est comme une... Je sais pas, une...
La mafia?
Ouais, c'est la migration italienne. Ça passe pas bien, puis... Fait que le gars, le président de A&P Supermarket va dire, OK, moi, je veux vos produits, mais vous changez le nom. Vous changez le nom de tout ça, ça sera pas ce nom-là, c'est certain. C'est repoussant, un nom italien. Et quand
marketing.
Et quand la première fois que les deux frères Boyardie se présentent là, ils leur demandent de spell your name, ils demandent d'appeler votre nom. Puis là, ils vont y aller plutôt en disant Boyardie. Tu sais, ils lui montrent comment le dire comme faut.
Il va par petit coup, par syllabe.
Oui, parce que les gens les appellent Boyardie.
OK. Donc lui, il écrit ça, lui, Boyardie, comme il l'entend.
Exactement. Il dit, moi, je prends vos produits, mais vous changez de nom. Il dit, ça va être Boy, B-O-Y, trait d'union, Art, A-R.
D-E.
Il dit ça. Si vous acceptez ça, évidemment qu'il refuse au début. Tu sais, Hector avait déjà été obligé de changer de prénom en arrivant aux États-Unis. Fait que, mais à un moment donné, pour faire travailler le monde, puis de voir que là, vraiment, ça va être un pas important, et ce sera un pas très important dans l'histoire des produits Chef Boyardie. Il va accepter le changement de nom, puis et là, ça va partir, évidemment, en flèche.
Ils en ont vendu.
Ouais. Les frères Boyardie vont vendre l'entreprise en 1946. Il y a 5000 employés à l'époque. Les affaires sont plus difficiles. Ils sont obligés un petit peu de clairer du monde. Puis ils veulent pas clairer de monde. Parce que toute la ville de Milton, en Pennsylvanie, travaille pour eux autres. Ils vont vendre l'entreprise 6 millions de dollars. Ce qui vaut aujourd'hui 90.
C'est ça, là.
Ouais, mais c'est quand même, c'est ça. Tu sais, en 46, 6 millions, c'était quand même
c'est pas pire,
beaucoup d'argent.
Ouais, mais quand même, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus que ça, là.
Oh oui, aujourd'hui c'est des milliards là, c'est des entreprises qui ont continué, même qui ont repris du poids de la bête. Il y a eu des années très difficiles, très tranquilles, mais là ça a repris du poids de la bête. Dans ce cas, c'était fort intéressant tout ça, puis tu sais, toutes les inventions que James Kraft a poussé à faire. Oui, il a acheté beaucoup de choses, mais c'est son l'inventeur du fromage en tranches enveloppé individuellement. Tu sais, ça existait pas, puis il y avait des défis de conservation à cette époque-là.
Le beurre de peanut, il arrive quand?
Et écoute, je l'ai
pas vraiment. Là.
Non. Il y a une branche de l'histoire que je vous ai pas racontée.
Moi, j'aime bien l'inventeur du beurre de pinot. Je sais pas si on pourrait le nommer.
Mais de ce qu'ils disent dans les annonces publicitaires, oui. Le beurre d'arachide Kraft est uniquement au Canada.
C'est vrai?
Il n'y en a pas aux États-Unis.
Ah, c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y en a pas. C'est du Jif aux États-Unis.
Jif, ouais. Skippy, cette affaire-là.
C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y en a pas.
Il
n'y
a pas de Kraft aux États-Unis. Mmh. C'est pour ça que Nicolo dit le Canada a peut-être une part importante de tous les produits Kraft.
C'est vrai qu'ils disent dans leur pub.
Le premier brevet, 1884, M. Ray.
1884?
Oui. Breveté par un pharmacien canadien, Marcellus Gilmore Edson.
Ah, moi, je veux saluer Marcellus.
À Bedford, au Québec.
Marcellus Gilmore.
Ouais.
Okay. Voilà. Il a inventé original. Les toasts brûlés aussi.
Oui, mais comme James Kraft, là, qui est le fondateur, puis je vous dis que c'est un personnage, je le connaissais pas avant hier de ce qu'il a fait, mais je le vois un peu. C'est un Canadien aussi. Oh. James Kraft est né et a grandi au Canada sur une ferme laitière et au début du 1900...
T'es allé faire des affaires l'autre bord.
Ben oui, c'est que lui a compris que la bataille était sur la conservation des aliments.
Stevensville, en Ontario.
Fait que et c'est comme ça qu'il va lancer sa compagnie de fromage, puis qu'il va être capable de faire durer le fromage dans le temps, puis de l'amener à un différent niveau. Puis, deux, trois petites affaires vite, que je vous ai pas dit. Quand les chefs, chef Boyardi, Hector Boyardi, décide de lancer sa sauce à spag en boîte, là, c'est qu'il y a une femme dans le nord-est des États-Unis, je me souviens plus dans quelle ville, puis je me souviens pas de son nom, là. Elle va commencer à faire de la sauce à spaghette maison.
À spaghette.
Puis elle va vendre ça en pot de verre. Puis ça s'appelle la sauce ragoût.
Oui,
ça existe encore.
R-A-G-U.
Oui, exactement. Et ça, ce sera le coup d'envoi pour dire, OK, elle avance sa sauce, elle n'a pas pensé de fournir les autres ingrédients. Et c'est comme ça que Boyardi va dire, hey, le pot de sauce, on le met dans la boîte, on met le parmesan, on met les pâtes, puis bingo, on est lancé avec ça. Et un des premiers qui aura donné l'idée à cette femme-là de lancer les Kraft Dinners, c'est le président américain Thomas Jefferson, qui lui avait la chance de voyager et d'aller en Europe. Et il est allé en Europe, il avait mangé du macaroni au fromage. Je sais pas, ça devait être en Italie, là, mais je suis pas certain.
Okay.
Et il va faire ramener, parce qu'il y a une équipe autour de lui.
Hein?
Il a fait ramener le stock pour en faire à la Maison-Blanche. Beaucoup de plats étaient uniques à la Maison-Blanche. Il y a juste eux autres qui avaient moyen de se payer ça. Fait que le macaroni au fromage est né un peu de là.
Alors, que vous avez présentement, peu importe ce qu'il est, si je vous donne le choix entre manger une cam de Chef Boyardi puis du Kraft Dinner, vous prenez quoi?
Chef Boyardi.
Es-tu sérieux?
Oh oui.
Ah, moi, je m'en vais de chez vous. Si tu me sers du beau Chef Boyardi.
C'est vrai?
Oui.
T'es pas capable?
Non. Je trouve ça dégueulasse, ça me brûle dans le ventre. Des pâtes en canne.
Non, c'est très bon.
Je vous ai dit, moi, je suis un gars de
texture. Je dirais pas que c'est très bon.
Ça marche pas.
Ça fait le travail.
Oui, mais moi, j'en ai tellement mangé.
J'en ai mangé.
J'en ai
pas assez mangé pour me dégoûter.
OK.
J'en ai mangé.
Ça, puis le ragoût de boulette en canne, le cordon bleu, c'est deux. Ah, c'est bon, ça. Ben oui.
Le ragoût de boulette en canne, cordon bleu, là, nous, c'était.
Une fois semaine.
Tu sais, on vivait. Non, pas
nous autres, une fois
ça.
Semaine.
Nous autres, là, c'était un cadeau.
Ah,
je veux dire, si maintenant, tu sais, on vivait pauvrement.
Ben, regarde
pas que mon père, il travaillait en voile verte.
T'as raison que le ravioli, c'était pas tout le temps.
C'était pas tout le temps, puis nous autres, c'était plus le ragoût de boulette en canne.
Ben, aujourd'hui, là, le ragoût de boulette en canne, cordon bleu, je pense que c'est la canne la plus chère à l'épicerie dans toutes les épiceries.
Mais comment ça coûte maintenant?
Ça coûte, pour la petite canne, c'est genre 4$, là, 4 à 5$ pour la petite canne. T'as pas grand chose là-dedans, puis la grosse canne, t'es bien plus cher que ça encore.
OK. Hein? Mais nous autres, je me souviens que ma mère allait faire l'épicerie, puis. Tu sais, dans ce temps-là, on vivait pas de crédit. Tu sais, mes parents sont décédés jeunes, mais le crédit, à part l'achat de la maison, d'après moi, le crédit, ils ont jamais su c'était quoi.
Peut-être les meubles.
Tu sais,
La voiture. La voiture.
Hey, l'auto, je pense qu'il payait cash aussi.
Possible.
Parce que ça prenait du temps. Il en parlait longtemps avant de changer de char.
C'est un bon truc de pas se mettre dans le trou, ça.
Mais tu sais, c'est un peu loin dans ma mémoire. Mais je sais que.
Et clairement, c'était pas comme présentement.
Mais non. Hey, après ça, là, je me souviens, quand mes parents, des fois, ils travaillaient ou ils sortaient, parce qu'ils travaillaient des fois dans des salles de réception le samedi soir. Puis là, on restait à la maison. Mettons, pour nous gâter. Je me souviendrai toujours, là, moi, c'était le cadeau attendu pour un événement spécial. C'était un dîner congelé Swanson.
Oui.
Ah.
Tu connais ça, hein? Un petit morceau de poulet avec les patates pilées chimiques, puis Il y a toujours un petit cop de maïs, là.
Oui.
C'était le...
Tu vois, c'est ça, j'aime encore ça, des patates.
RBO a fait un sketch, là.
À cause des dîners Swanson.
Les dîners Swanson.
Il y avait celui à dinde, puis il y avait celui au poulet, puis l'espèce de poulet frit.
Le poulet frit, là. Moi, c'était celle-là, là.
Chez nous, là, je pense que mes parents étaient écœurés de nous faire des lunchs, là. Fait qu'on mangeait souvent ça, Chef Boyardi, le beefaroni, les raviolis, les spaghettis.
T'es-tu sérieux?
Oui, je te jure.
T'as quel âge? Es-tu trop tard pour appeler la DPJ?
J'ai 22, mais... Non, il est pas trop tard, je pense pas. Non, mais sinon, c'était les plats Michelinos. Je sais pas, on appelle ça même, mais ça se dit Michelinos.
Oui,
ça, on en a mangé énormément.
Ouais,
énormément.
Ben, mais c'était pas cher, ça.
Mais c'est rendu
pas
achetable.
C'est pas cher.
Ouais. C'est de la bonne scrap aussi, par exemple. Quand tu regardes ce que ça contient, tu recommences pas le lendemain.
Oui, mais quand tu étais...
Il y a beaucoup de sel.
Quand je me suis séparé, là, ma façon de faire du riz, c'était d'acheter une enveloppe de riz Lipton, là, tu sais, déjà toute prête. Puis, il y avait assez de sel dans ça pour faire fondre toute la côte Gilmore au complet, là, tu sais. Fait que quand t'étais bien glacé, mais en même temps, j'étais limité.
C'est pas mauvais au goût pour autant, là. C'est pas ce que je dis, mais c'est ça. Côté santé, c'est pas parfait, là.
C'est pas parfait. Mais, tu sais, souvent, quand tu vas acheter un produit santé, il y a budget aussi.
Ben oui.
Santé, budget, disponibilité.
Mais t'as totalement raison.
Tout ça va être considéré en même temps. Puis le budget va probablement être la première question.
Ben, mais moi, j'allais dire, juste quand Philippe Couillard a parlé du 75$ par semaine, là. Moi, j'ai toujours dit, c'est possible, mais faut que tu manges du spaghetti tout le temps, puis t'as peut-être pas de sauce tout le temps. Tu sais, t'as des pâtes au beurre à travers ça. Là,
mais moi, quand je pense à mes grands-parents, c'est ça l'image. C'est le dîner Swanson devant télé. Ça restait nouveau comme phénomène pour eux autres. Ils ont grandi, pas de télé. Fait que là, c'était souvent le repas devant la télé. Et les petites tables pliantes que tu clipais dessus en métal, là, en aluminium. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais mes grands-parents, c'était ça. Il y a de l'aluminium partout, finalement. Dans le dîner Swanson, puis dans sa table.
Nous autres, c'était une table à cartes, là.
Ouais.
Une petite table à cartes, les pattes pliantes, là.
Ouais.
Avec le dessus coussiné, là. On avait ça, puis là, on avait le droit de monter la table à cartes dans le salon et s'emmener des chaises de la salle à dîner pour manger devant la télé avec notre dîner Swanson. Mon frère mangeait des frites McCain, lui. Beaucoup. Mais je ne sais pas.
D'après moi, c'est la même valeur nutritive.
Oui, le sel aussi était là.
Vous vous souvenez de Jaco?
Jaco, il mangeait ses frites, puis il s'en relevait les lunettes de même, c'est mon ami. Il parlait pas. Dans l'annonce, il parlait pas. Il mangeait ses patates, puis il relevait ses lunettes de même.
Bon, ben voilà, j'ai fini la petite histoire.
J'ai plein d'affaires.
Oui,
je suis content.
Je suis une vraie encyclopédie.
C'est ça pour la fin de l'émission, on va me le
demander. Oui, ça, je vais pas tout vous dire.
OK.
Café?
Ouais, on est dû pour du café, hein?
Parfait.
Laurentienne, on est rendu dans le secteur de Lac-Beauport. C'est parce que ça commence à ralentir à la hauteur de la capitale.
C'est quoi qu'il y a eu vraiment un gros accident?
Un accident dans la voie du centre. Fait que, tu sais, je pense qu'on a réussi à dégager le secteur, mais c'est long.
J'ai vu à TV tantôt, il y a une femme de 36 ans qui est morte d'un accident, là. Elle a frappé derrière d'une vanne ou quoi? Ça date du week-end. Je vois.
Ici ou...
Je pense que c'est dans le parc, mais je suis pas certain. En tout cas, oubliez.
Collision mortelle à Saguenay, une femme...
Oui. Une femme de 36 ans,
après avoir percuté une remorque d'un poids lourd qui circulait à sens inverse près de Saint-Fulgence.
OK, j'essaie de comprendre comment elle a pu faire son compte. J'ai vu les images, puis je comprenais pas comment...
Les premières images laissent croire que la remorque d'un véhicule lourd qui transportait un concasseur aurait glissé dans la voie inverse.
Ah, c'est ça. Et parce que le concasseur, qui est trop large pour le flatbed, qui est très large, est comme débarqué un peu aussi d'un bord, probablement peut-être au choc aussi, et il est stationné en bordure de route. Fait que, OK. C'est pas elle qui a perdu le contrôle, mais plutôt le camion.
Il y a quelqu'un qui nous dit, excuse-moi, je reviens au chef Boyardi.
Oui.
Julien nous dit qu'à leur dépanneur, ils sont obligés de la vendre, la grosse canne,
11,99.
Hey, t'avais des trios de fast-food pour ce prix-là.
Puis t'as une canne de chef Boyardi.
Une canne de chef. Je sais pas si. Non, elle parle du ragoût.
Ragoût de boulette, ouais, c'est cher. Mais t'as bien choisi ton temps de verbe. On avait un trio à ce prix-là.
Oui.
À ce temps, t'as peut-être un sandwich.
Oui.
T'as le sandwich.
Pas de frites, pas de liqueur.
On revient dans un instant.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.